Première partie. Forever Young. Chapitre 1. Coca-Cola Sherry. Quand on est assis dans un avion qui s'écrase, on a beau attacher sa ceinture, ça ne sert à rien. Haruki Murakami. 1. Sophia Antipolis. Samedi 13 mai 2017. Je garais la voiture de location sous les pins, près de la station-service, à 300 mètres de l'entrée du lycée. J'étais venu directement de l'aéroport après un vol New York-Nice pendant lequel je n'avais pas fermé l'œil. La veille, j'avais quitté précipitamment Manhattan après avoir reçu par mail un article évoquant le 50e anniversaire de mon ancien lycée. Le courrier m'avait été envoyé via la messagerie de ma maison d'édition par Maxime Biancardini, qui était autrefois mon meilleur ami, mais que je n'avais pas vu depuis 25 ans. Il m'avait laissé un numéro de portable que j'avais hésité à composer avant d'admettre que je ne pouvais guère faire autrement. « T'as lu l'article, Thomas ?» m'a-t-il demandé presque sans préambule. « C'est pour ça que je t'appelle. Tu sais ce que ça signifie ?» Sa voix résonnait des intonations autrefois familières, mais elles étaient déformées par la fébrilité, l'urgence et la peur. Je n'ai pas tout de suite répondu à sa question. Oui, je savais ce que cela signifiait. Que c'était la fin de nos existences telles que nous les avions connues. Que nous allions passer la prochaine partie de notre vie derrière des barreaux. « Il faut que tu viennes sur la Côte d'Azur, Thomas », me lança Maxime, au bout de quelques secondes de silence. « Il faut qu'on mette au point une stratégie pour éviter ça. Il faut qu'on tente quelque chose. » J'ai fermé les yeux en mesurant les conséquences de ce qui allait se passer. L'ampleur du scandale, ses implications judiciaires, l'onde de choc se répercutant sur nos familles. Au fond de moi, j'avais toujours su qu'il existait une probabilité pour que ce jour arrive. J'avais vécu près de 25 ans, ou fait semblant de vivre, avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Régulièrement, au milieu de la nuit, je me réveillais en sueur, en repensant aux événements qui s'étaient déroulés à l'époque et à la perspective qu'on puisse un jour les découvrir. Ces nuits-là, j'avalais un Lexomil avec une lampée de Karuizawa, mais il était rare que je parvienne à me rendormir. « Il faut qu'on tente quelque chose !» répéta mon ami. Je savais qu'il se berçait d'illusions. Car cette bombe qui menaçait de ravager le cours de nos existences, c'est nous qui en avions été les artificiers, un soir de décembre 1992. Et nous savions tous les deux qu'il n'y avait aucun moyen de la désamorcer. 2. Après avoir verrouillé les portières, je fis quelques pas jusqu'à la station d'essence. C'était une sorte de General Store à l'américaine, que tout le monde appelait « chez Dino ». Derrière les pompes à carburant, s'élevait une construction en bois peint, un bâtiment de style colonial, qui abritait une petite boutique et un café agréable, avec une grande terrasse courant sous un auvent. Je poussai la porte à battants. L'endroit n'avait pas tellement changé, et possédait toujours un petit côté hors du temps. Au fond du magasin, des tabourets haut perchés entouraient un comptoir en bois cérusé, au bout duquel des cloches de verre servait d'écrin à des gâteaux colorés. Dans le reste de la salle se déployaient des banquettes et des tables qui s'échappaient jusque sur la terrasse. Sur le mur étaient accrochées des plaques en émail représentant de vieilles réclames pour des marques aujourd'hui disparues, ainsi que des affiches de la Riviera des années folles. Pour installer plus de tables, on avait retiré le billard et les jeux d'arcade qui avaient tant de fois écorné mon argent de poche. Outrun, Arkanoid, Street Fighter 2. Seul le baby-foot avait survécu, un vieux bonzini de compétition au tapis usé jusqu'à la corde. Mes mains ne purent s'empêcher de caresser le caisson du baby en être massif. À cette même place, avec Maxime, nous avions refait pendant des heures tous les grands matchs de l'OM. Les images me revenaient en vrac. Le triplé de Papin lors de la Coupe de France 1989. La main de Vata contre Benfica. L'extérieur pied droit de Chris Waddle contre le Milan AC, ce fameux soir où l'éclairage du vélodrome avait disjoncté. Malheureusement, nous n'avions pas fêté ensemble la victoire que nous avions tant attendue, le sacre de la Ligue des Champions en 1993. À cette date, j'avais déjà quitté la Côte d'Azur pour poursuivre mes études dans une école de commerce à Paris. Je me laissais gagner par l'ambiance du café. Maxime n'était pas le seul avec lequel j'avais l'habitude de venir ici, après les cours. Mes souvenirs les plus marquants étaient associés à Vinka Rockwell, la fille dont j'étais amoureux à l'époque. La fille dont tous les garçons étaient amoureux à l'époque. C'était hier. C'était il y a une éternité. En avançant vers le comptoir, je sentais les poils de mes bras se hérisser à mesure que des instantanés se précisaient dans ma mémoire. Je me souvenais du rire clair de Vinka, de ses dents de la chance, de ses robes légères, de sa beauté paradoxale, du regard distancié qu'elle affectait de vouloir poser sur les choses. Je me souvenais que chez Dino, Vinka buvait en été du Sherry Coke, alors que l'hiver, elle commandait des tasses de chocolat chaud avec des petits chamallows qui flottaient à la surface.
« Je vous sers quelque chose ?»
Je n'en crus pas mes yeux. Le café était toujours tenu par le même couple italo-polonais, les Valentini, et dès que je les aperçus, leurs prénoms me revinrent. Dino, bien sûr, avait interrompu son nettoyage de la machine à expresso pour me parler, tandis qu'Anna feuilletait le journal local. Il avait pris du poids et perdu ses cheveux. Elle avait perdu sa blondeur et pris des rides. Mais avec le temps, leur couple semblait mieux assorti. C'était l'effet normalisateur de la vieillesse. Elle fanait les beautés trop éclatantes et donnait parfois de la patine et du lustre à des physiques plus banales. « Je vais prendre un café, s'il vous plaît. Un double expresso. » Je laissai flotter quelques secondes, puis je provoquai le passé en convoquant le fantôme de Vinka. Et un Sherry Coke, avec une paille et des glaçons. Un instant, je crus que l'un des Valentini allait me reconnaître. Mon père et ma mère avaient été proviseurs de Syntex entre 1990 et 1998. Lui s'occupait du lycée et elle des classes prépa, et à ce titre, il bénéficiait d'un logement de fonction dans l'enceinte du campus. J'étais donc souvent fourré ici. Contre quelques parties gratuites de Street Fighter, j'avais parfois aidé Dino à ranger sa cave ou à préparer ses fameuses Frozen Custards dont il tenait la recette de son père. Alors que sa femme avait toujours les yeux rivés à son journal, le vieil Italien encaissa ma monnaie et me tendit mes boissons. Mais aucune étincelle n'illumina son regard fatigué. La salle était aux trois quarts vide, ce qui était étonnant même pour un samedi matin. Syntex comptait beaucoup d'internes, et à mon époque, une bonne partie d'entre eux restait au lycée le week-end. J'en profitai pour me diriger vers la table que Vinka et moi préférions. La dernière au bout de la terrasse, sous les branches odorantes des pins. Comme les astres se reconnaissent entre eux, Vinka choisissait toujours la chaise qui faisait face au soleil. Avec mon plateau dans les mains, je m'assis à ma place habituelle, celle qui tournait le dos aux arbres. J'attrapai ma tasse de café et posai le verre de Cherry Coke devant la chaise vide. Le haut-parleur diffusait un vieux tube de REM, Losing My Religion, dont la plupart des gens croyaient qu'il parlait de foi, alors qu'il évoquait simplement les tourments d'un amour douloureux et unilatéral. Le désarroi d'un garçon qui criait à la fille qu'il aimait. « Hé, regarde ! Je suis là ! Pourquoi ne me vois-tu pas ?» Un condensé de l'histoire de ma vie. Un petit vent faisait trembler les branches. Le soleil poudroyait sur les lattes du plancher. Pendant quelques secondes, la magie opéra et me projeta au début des années 1990. Devant moi, sous la lumière vernale qui transperçait les branchages, le fantôme de Vinka s'anima, et l'écho de nos discussions passionnées revint à mes oreilles. Je l'entendais me parler avec ferveur de l'amant et des liaisons dangereuses. Je lui répondais en évoquant Martin Eden et Belle du Seigneur. C'est à cette même table que nous avions l'habitude de parler pendant des heures des films que nous avions vus le mercredi après-midi au Star, à Cannes ou au casino d'Antibes. Elle s'enthousiasmait pour la leçon de piano et Thelma et Louise. J'aimais Un cœur en hiver et La double vie de Véronique. La chanson toucha à sa fin. Vinka chaussa ses Ray-Bans, aspira à la paille une gorgée de son coca et me fit un clin d'œil derrière ses verres colorés. Son image s'étiola jusqu'à disparaître tout à fait, mettant un terme à notre parenthèse enchantée. Nous n'étions plus dans la chaleur insouciante de l'été 1992. J'étais tout seul, triste et essoufflé, en train de courir après les chimères de ma jeunesse perdue. Ça faisait 25 ans que je n'avais pas revu Vinka. 25 ans d'ailleurs que personne ne l'avait revu. 3. Le dimanche 20 décembre 1992, Vinka Rockwell, 19 ans, s'était enfui à Paris avec Alexis Clément, son professeur de philosophie âgé de 27 ans, avec qui elle entretenait une relation secrète. On les avait aperçus une dernière fois tous les deux le lendemain matin, dans un hôtel du 7e arrondissement près de la basilique Sainte-Clotilde. Puis on avait perdu toute trace de leur présence dans la capitale. Plus jamais ils ne s'étaient manifestés, plus jamais ils n'avaient contacté leur famille ni leurs amis. Ils s'étaient littéralement évaporés. Voilà pour la version officielle. Je sortis de ma poche l'article de Nice Matin que j'avais déjà parcouru une centaine de fois. Sous une apparence banale, il contenait une information dont les conséquences dramatiques allaient remettre en cause ce que tout le monde connaissait de cette affaire. On ne jure aujourd'hui que par la vérité et la transparence, mais la vérité est rarement ce qu'elle semble être, et dans ce cas précis, elle n'allait apporter ni apaisement, ni travail de deuil, ni véritable justice. La vérité n'allait charrier avec elle que le malheur, la chasse à l'homme et la calomnie.
Ah, pardon, monsieur!
En courant entre les tables, un lycéen mal dégrossi venait de faire valser le verre de coca d'un coup de sac à dos. Un réflexe me permit de rattraper le récipient à la volée avant qu'il ne se brise. Avec plusieurs serviettes en papier, j'épongeai la surface de la table, mais le soda avait éclaboussé mon pantalon. Je traversai le café vers les toilettes. Il me fallut 5 bonnes minutes pour faire disparaître les taches et à peu près autant pour sécher complètement le vêtement. Mieux valait éviter de me pointer à la réunion des anciens élèves en laissant croire à tout le monde que je m'étais pissé dessus. Puis je regagnai ma place pour récupérer ma veste accrochée au dos de ma chaise. Quand je jetai un coup d'œil sur la table, je sentis mon cœur s'accélérer. En mon absence, quelqu'un avait plié en deux la photocopie de l'article et posé dessus une paire de lunettes de soleil. Des Ray-Ban Clubmaster au vert coloré. Qui m'avait joué cette mauvaise blague? Je regardais autour de moi. Dino parlait avec un type près des postes à essence. Anna arrosait ses géraniums de l'autre côté de la terrasse. À part les 3 éboueurs qui prenaient leur pause, attablés au comptoir, les rares clients étaient des lycéens qui travaillaient devant leur MacBook ou chattaient sur leur téléphone portable. Merde. Il me fallut prendre les lunettes en main pour admettre que ce n'était pas une hallucination. Lorsque je les soulevais, je remarquai qu'on avait annoté la coupure de journal. Un simple mot tracé d'une écriture ronde et appliquée. Vengeance.